votre sourire.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée aux accords d'Oslo, signés il y a 25 ans, premier document de paix jamais conclu entre Israéliens et Palestiniens qui créa l'espoir d'une paix globale au Proche-Orient après des dizaines d'années de conflits. Que reste-t-il des accords d'Oslo? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Alain Diekhoff, directeur de recherche au CNRS, spécialisé dans la politique et la société contemporaine d'Israël, auteur de nombreux ouvrages dont le conflit israélo-palestinien paru chez Armand Collin. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Paul Chagnolot, professeur émérite des universités, président de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, auteur également de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Israël face à Israël, promesses et dérives d'une utopie, aux éditions Autrement. Bonjour.
Bonjour.
Washington a annoncé il y a quelques jours la réduction à néant de sa participation au fonctionnement de l'Agence des Nations Unies chargée spécifiquement des réfugiés palestiniens. Suppression qui s'ajoute à celle de 200 millions de dollars d'aide bilatérale décidée quelques jours plus tôt. L'aide globale des États-Unis aux Palestiniens s'élevait en 2017 à plus de 350 millions de dollars, une somme liée au rôle prépondérant des États-Unis dans la question israélo-palestinienne. On est loin, avec ces décisions récentes, de l'image du 13 septembre 1993. C'était à la Maison-Blanche où se trouvaient rassemblés autour du maître de cérémonie Bill Clinton, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, Shimon Peres, son homologue russe Andrei Kozirev, Mahmoud Abbas, sous les yeux de deux anciens présidents américains, George Bush et Jimmy Carter, huit anciens secrétaires d'État, tout le Congrès des États-Unis, la Cour suprême, de nombreux ministres des Affaires étrangères, les ambassadeurs arabes, au total 3000 invités et un millier de journalistes. J'arrête là la description de cette signature du premier document de paix jamais conclu entre Israéliens et Palestiniens, porteuse de beaucoup d'espoir. Qu'est-ce que cette comparaison vous inspire? Où en est-on aujourd'hui de ces accords d'Oslo? Alain Diekhoff.
Je pense qu'on peut dire, vous avez utilisé le terme espoir, oui c'est vrai, je pense qu'il y avait beaucoup d'espoir en 1993. 25 ans après, on peut dire que malheureusement le pari qui avait été celui d'Oslo a échoué. Le pari, c'était en effet, et le préambule des accords le disait très clairement, hein, construire une paix juste et durable. Ce pari n'a pas été gagné. Alors il reste des choses, évidemment, d'Oslo, en particulier l'autorité palestinienne, dirigée aujourd'hui par Mahmoud Abbas, qui était en effet signataire des accords en 1993. C'est le seul survivant, d'ailleurs, les trois autres sont décédés, qui contrôle donc à peu près 40% de la Cisjordanie. Mais on est toujours finalement dans la situation qui était prévue en 94-95, qui était une situation transitoire. On n'est pas sorti du transitoire. En fait, c'est ça. Depuis 2000, on aurait dû passer aux négociations sur le statut final. Il y a bien eu quelques essais, en particulier au cours de l'été 2000, mais on n'est jamais allé au-delà. Et en ce sens-là, oui, les accords d'Oslo n'ont pas tenu leur promesse. Alors bon, évidemment, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais bon, il y a évidemment des raisons qui ont fait qu'on n'est pas parvenu à concrétiser cela, mais oui, par rapport aux espoirs initiaux, on est très loin de ce qui était prévu.
Jean-Paul Chagnolot.
Je crois que les accords d'Oslo, c'était un moment particulier dans l'histoire diplomatique de la région. Et en ce qui concerne les Israéliens et les Palestiniens, je crois qu'il y a eu un point d'équilibre entre les différentes forces dans chacun des deux camps, si je puis dire. En d'autres termes, chez les Palestiniens, il y avait une force dominante qui voulait la négociation. Et chez les Israéliens, grâce à Rabin, tout particulièrement grâce à Rabin,
assassiné deux
ans et à Peres aussi, oui, il y avait aussi cette capacité de vouloir négocier. Des deux côtés, il y avait des opposants violents. Du côté palestinien, c'était le Hamas qui n'en voulait pas, et du côté des Israéliens, c'était la droite dure incarnée par un certain Benjamin Netanyahou. Donc il y avait un point d'équilibre. Et ce point d'équilibre a permis ces accords d'Oslo, d'autant plus que sur le plan international, il y avait une structuration telle que ça renforçait, consolidait, pendant toutes ces années, ce processus dit d'Oslo. Vous vous rappeliez ce qui s'est passé à la Maison-Blanche ce 13 septembre 1993. Donc c'est vraiment un point d'équilibre. Or ce point d'équilibre, il a été rompu. Il a été rompu très tôt, très vite. Et juste une anecdote, c'est lorsque le 4 novembre 1995, Yitzhak Rabin est assassiné par un extrémiste israélien. Arafat, lorsqu'il apprend cela, dit à un journaliste que je connais bien et qui était présent ce jour-là, c'est fini, j'ai plus de partenaire. Et je crois que c'est très juste. Je pense qu'il fallait, pour faire la paix, j'allais presque dire, en jouant sur les mots, un homme de guerre, c'est-à-dire un homme qui avait fait la guerre. Et Rabin était sans doute le seul en Israël à porter ce processus. Et en face, il y avait Arafat. Et ce déséquilibre, après, on va le retrouver immédiatement, puisque dès 1996, c'est la droite qui revient au pouvoir, puis ensuite, c'est le Hamas qui va faire des attentats. Bref, ce point d'équilibre, il arrive à un moment, il est rompu. Et donc, ce processus qui était fondamentalement un processus évolutif, c'est-à-dire qu'on allait vers des retraits de l'armée israélienne, puis vers des accords de paix définitifs. Donc, il y avait une évolution. Or, cette évolution s'est bloquée. Comme elle s'est bloquée, cet espoir incontestable, même s'il y avait pas mal de sceptiques à l'époque, s'est métamorphosé en un piège, qui est en fait le piège dans lequel sont tombés finalement les Palestiniens. Et comme l'équilibre s'est rompu par la suite, alors on va pas refaire l'histoire, comme disait Alain à l'instant, mais bon, du coup, c'est les forces opposées à ça qui sont au pouvoir. En Israël, depuis 2001, ce sont les forces opposées à ce processus. Les ministres importants du gouvernement de l'époque disaient « Oslo n'est pas la solution, c'est le problème ». Et du côté palestinien, le Hamas a vraiment aussi joué un rôle extrêmement négatif, tragique même, du côté palestinien pour que ces accords soient pratiquement enterrés. Voilà. Donc c'est très schématiquement un peu...
Donc ce que c'est j'entends...
C'est une occasion manquée, je crains que ça soit pour longtemps.
Donc il y a eu finalement en 1993, les bonnes personnes à un bon moment, ça s'est croisé et ensuite ça s'est à nouveau séparé. Donc il y avait, c'est vrai, un espoir de normalisation. Qu'est-ce qu'on peut dire des acquis tout de même, Alain Diakhoff, de ces accords de Oslo?
En effet, il y a ces acquis, je dirais, un peu factuels sur le terrain, donc une certaine institutionnalisation du pouvoir palestinien via cette autorité palestinienne. Donc en ce sens là, la plupart des Palestiniens en Cisjordanie ne sont plus directement, je dirais, aux prises avec l'armée israélienne, puisqu'ils sont gérés par l'autorité palestinienne. Mais en même temps, cette armée continue quand même à être présente, puisque elle est dans les 60% de la Cisjordanie, et puis elle a la capacité d'intervenir, y compris dans la fameuse zone B, de façon extrêmement rapide. Donc, oui, ils sont sortis du régime qui était le régime d'occupation militaire qui existait jusqu'au milieu des années 90, mais ils sont évidemment très très loin d'avoir un État pleinement souverain, même si le paradoxe un petit peu, c'est que, alors pas l'autorité en tant que telle, mais l'État palestinien a une forte reconnaissance internationale, ça c'est vrai, il a été reconnu par plus de 100 États à travers le monde, donc il a une reconnaissance externe très forte, mais sa souveraineté interne n'existe pas vraiment, il ne contrôle pas ses frontières, et il n'a pas véritablement une capacité comme État. Donc on reste dans cette situation un peu étrange, et en plus, bien évidemment, ça c'est pas lié aux accords d'Oslo, c'est lié aux dissensions qui sont nées à l'intérieur du camp palestinien. Il y a cette séparation qui existe maintenant depuis 11 ans entre le Hamas qui est à Gaza et l'autorité palestinienne qui est en Cisjordanie. Et cette division évidemment nuit aussi considérablement à la défense de la cause palestinienne, puisqu'il n'y a pas en effet d'unité sur la perspective à avoir. De l'autre côté, du côté israélien, c'est aussi une faiblesse très très réelle aujourd'hui de ceux qui ont pu porter, il y a 25 ans, les accords d'Oslo, c'est-à-dire grosso modo de la gauche sioniste qui n'a plus été au pouvoir, en tous les cas, toute seule depuis 2001. Donc ça fait très très longtemps qu'elle est soit dans l'opposition, ce qui a été le cas la plupart du temps, ou alors parfois dans des gouvernements un peu d'unité nationale au milieu des années 2000, mais sinon elle est très très marginalisée aujourd'hui, et ceux qui donnent de la voix, c'est incontestablement ceux qui à l'époque avaient critiqué et dénoncé les accords d'Oslo avec le Premier ministre actuel en première ligne.
Alors, le camp de la paix très affaibli, Jean-Paul Chagnolot, le constat en ce qui concerne les colonies, le nombre de colons juifs en Cisjordanie depuis 1993, il est passé de 200 000 à 600 000, ça se passe de commentaires ?
Non, ça appelle des commentaires. Non, juste un mot pour la question précédente que vous évoquiez. Moi, je crois qu'il y a quand même un point central qui est l'acquis des accords d'Oslo, au-delà, effectivement, des aspects structurels, organisationnels, sur lesquels on pourrait longuement discuter, c'est l'identité palestinienne. C'est-à-dire qu'à partir de cette poignée de main entre Rabin et Arafat, il y a quelque part symboliquement la reconnaissance de l'existence d'un peuple palestinien, ce qui n'existait pas avant. C'était vraiment... Et c'est aujourd'hui ce qui est remis en question, d'une certaine façon. Mais ça, c'est tout de même un acquis, et cet acquis s'est traduit, comme Alain l'a très bien dit, sur le plan international. Il y a eu beaucoup de résolutions, et encore tout récemment, la résolution de décembre 2016 du Conseil de sécurité, c'est encore Obama qui a laissé passer le texte, et donc il a soutenu implicitement, et qui était sur des bases extrêmement claires, sur la reconnaissance du peuple palestinien, sur les deux États, sur l'arrêt immédiat des colonies, ce qui fait que je reviens à vos colonies. Mmh. Je crois que c'est pas simplement une question de nombre. Évidemment, vous avez raison, et il y a effectivement, sans doute, en comptant Jérusalem-Est, plus de 600 000 colons aujourd'hui, alors qu'il y en avait, par exemple, en 1970, il y en avait 10 000, pour vous donner un peu une idée. Quoi. Mais ce qui est encore plus important, je crois, c'est la dimension idéologique. C'est le fait qu'il y a une banalisation de cette affaire, et puis une vraie implication idéologique, c'est-à-dire, pour reprendre des termes d'autrefois, l'idéologie dominante aujourd'hui en Israël, à travers le spectre politique qui est aujourd'hui au pouvoir, c'est-à-dire à droite, l'extrême droite, les religieux, les nationalistes, il légitime complètement, et il assume complètement la légitimité de la colonisation. Ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 70, où c'était au contraire des petits groupes qui étaient minoritaires. Là, c'est une légitimation. Et cette légitimation, elle s'est même traduite dans une loi, la loi d'État-nation juif de juillet dernier. Il y a un paragraphe sur les implantations. Autrement dit, on trouve parfaitement légitime d'être ce qu'il faut bien appeler les choses par leur nom, un État colonial. On revendique la colonisation de manière tout à fait logique. Et il y a pas si longtemps, c'était à l'automne 2017, il y a eu une très grande cérémonie que le gouvernement organisait pour célébrer, je cite, les 50 ans de colonisation. C'était quand même assez étonnant, 50 ans de colonisation, parce que elle a commencé en 67, mais c'était pas la revendication du gouvernement à cette époque-là. Donc on est en une sorte de déphasage par rapport à l'époque, quoi. Ça sent bon le 19e siècle, là, les 50 ans de colonisation. En Israël, beaucoup se sont opposés à ça. Par exemple, la présidente de la Cour suprême n'a pas voulu assister à cette manifestation. Enfin, il y a évidemment beaucoup de résistance, malheureusement. Cette résistance, elle est assez maintenant marginale. Et même cette loi, d'ailleurs, cette loi très importante, cette loi de l'État-nation juif, qui ethnicise, en quelque part, qui constitutionnalise une idéologie ethnicisante, pour parler un peu globalement, eh bien, cette loi n'a été votée finalement que par 62 députés. Il y a encore des forces qui s'opposent à tout cela. Malheureusement, aujourd'hui, elles sont minoritaires. Et puis, un dernier mot, bien sûr, c'est que tout ceci est renforcé, puisque je parlais tout à l'heure d'équilibre. Là, nous sommes dans un déséquilibre total, puisqu'il y a cette légitimation de la colonisation d'un côté, et il y a les États-Unis avec Donald Trump, c'est ça, Trump, qui appuie, mais de manière aveugle, et qui va même au-delà des positions les plus extrêmes du Likoud. On a bien vu ce qui s'est passé à propos de Jérusalem, et là, en ce moment, on voit quelque chose de stupéfiant, qui consiste à dire, il y a une question qui est la question importante des réfugiés, eh bien, en fait, il n'existe plus les réfugiés. Il n'y a plus d'UNRWA, et on veut remettre en question le statut de réfugié. C'est comme si on gommait les points pour régler un problème. Alors, quand vous parliez du plan de paix, il y a quelque chose d'hallucinant dans cette affaire, parce que on va vers un plan de paix, mais au préalable, l'administration américaine, enfin en tout cas Donald Trump et quelques-uns de ses colistiers, prétendent gommer des choses absolument fondamentales en méprisant totalement, en piétinant complètement les règles les plus élémentaires du droit international.
L'UNRWA, qui est l'agence des Nations Unies chargée spécifiquement des réfugiés palestiniens, oui, que je citais en introduction de l'émission. Alors, c'est vrai que la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par les États-Unis est venue ajouter, en tout cas, mis clairement la position américaine sur la table. Deux questions. La solution à deux États est-elle totalement enterré, Alain Diakhoff, et quels atouts, finalement, les Palestiniens conservent-ils aujourd'hui ?
Sur la solution des deux États, je pense qu'il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est que les accords d'Oslo, malgré l'échec qui a été le leur, finalement, ont conduit à une reconnaissance assez large, y compris au niveau régional, par les États arabes, et au-delà du reste de la communauté internationale, de la légitimité de la solution de deux États. C'est-à-dire de considérer que la bonne solution, d'un point de vue idéal, diplomatiquement, ce serait en effet la création d'un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël. Simplement, il y a, au fur et à mesure que le temps a passé, si on mesure en effet entre 2018 et 1993, l'écart entre cette solution idéale et la réalité n'a fait que croître. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que sur le terrain, bon, bah, vous l'avez dit, en effet, avec la multiplication, en particulier des colonies juives en Cisjordanie, qui évidemment grignote le terrain inévitablement, la multiplication des routes, etc., etc. Le terrain, quelque part, du futur État palestinien a tendance à se dissoudre, au moins en partie. Et c'est ça, pour moi, l'élément le plus frappant, c'est ce décalage décalage entre ce qui reste une solution auquel tout le monde fait plus ou moins référence de façon rhétorique, même si c'est les États-Unis, enfin avec Trump, ont introduit un peu d'ambiguïté en disant deux États, un État, finalement, moi, ça m'est un peu égal. C'est ce qu'il avait eu l'occasion de dire il y a quelques mois, de façon extrêmement désinvolte par ailleurs. Mais sinon, pour le reste, c'est vrai qu'il y a un assez grand accord autour de cette idée. Mais c'est vrai aussi que je vois aujourd'hui très clairement de plus en plus, de façon problématique, la réalisation concrète de cette idée, parce que le rapport de force aujourd'hui, et en particulier encore davantage avec la position américaine, est totalement défavorable, à mon sens, aux Palestiniens. En plus, comme ils sont eux-mêmes divisés, évidemment, ça facilite un petit peu le rouleau compresseur, si je puis dire, israélien en face, qui a beau jeu de totalement utiliser ce rapport de force, en plus appuyé par les États-Unis, pour finalement faire quoi ? Pour faire, en fait, à mon avis, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est une sorte d'État unique qui commence à voir le jour, mais un État unique, pas version binationale à laquelle certains intellectuels, y compris palestiniens, avaient pu penser comme Edouard Saïd, un État binational, où il y aurait des juifs et des arabes, avec une logique paritaire. Non, c'est un État unique à la façon de la droite nationaliste, qui est un État, dans le fond, complètement dominé par Israël, où les Palestiniens pourraient, en effet, garder l'autonomie qu'ils ont aujourd'hui, mais finalement pas beaucoup plus. Et par ailleurs, en effet, la logique de grignotage se poursuivrait. À mon avis, c'est ça qui est malheureusement en train de se dessiner, et avec Gaza qui pourrait rester. D'ailleurs, certains porte-parole de la droite israélienne ont dit très clairement, bah oui, si finalement il y a une sorte d'État palestinien, même dirigé par le Hamas, on peut s'en accommoder. Mais c'est pas du tout, évidemment, la logique à laquelle on avait pu penser il y a 25 ans, qui aurait été une logique de reconnaissance sens sur une base quand même d'équité. Là, on est dans une logique totalement asymétrique entre les deux parties.
Pour aller plus loin, Jean-Paul Chagnolot, Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, prépare un plan de paix dont on ne sait pas grand-chose, annoncé de longue date, il peine à se concrétiser. Vous avez une idée ?
Je n'ai aucune idée. Tout ce qui est dit dans la presse est particulièrement contradictoire. Mais par contre, j'ai une certitude, c'est que ça va dans le mur avant même d'avoir commencé, pour des raisons simples. C'est que si on prétend jouer un rôle de médiateur, je parle des États-Unis, avec les décisions qui ont été prises depuis pratiquement un an, c'est parfaitement contradictoire. Avoir fait cette reconnaissance unilatérale de Jérusalem comme capitale d'Israël, on a vu les conséquences que ça avait du point de vue palestinien et du point de vue de l'équilibre des rapports de force, évidemment. C'est totalement absurde et c'est contraire, j'insiste là-dessus, au droit international. Le deuxième dossier, je l'évoquais tout à l'heure brièvement, sont les réfugiés. Ils ont d'abord coupé un peu, 200 millions pour l'aide aux Palestiniens globalement. Puis ensuite, ils sont attaqués à l'UNRWA pour finalement décider de ne plus donner un sou à l'UNRWA. Il y a plus de 5 millions de réfugiés qui sont à l'UNRWA. C'est tout à fait essentiel. Donc ça veut dire que l'administration américaine supprime la question. C'est comme si elle n'existait plus. Donc il n'y a plus de question de réfugiés. Donc il n'y a plus de question de Jérusalem, il n'y a plus de question de réfugiés. Puis troisième point, les colonies. Ah ben, les colonies, c'est naturel, c'est normal, continuer. Donc comment voulez-vous imaginer un plan de paix crédible sur ces bases-là ? C'est absurde, bien entendu. Donc il n'y a aucune chance que ça puisse fonctionner, même les États arabes. À un moment donné, on a dit l'Arabie Saoudite, mais c'est en fait faire peu de cas des contradictions qu'il y a entre MBS et puis son père. Et il est bien clair que l'Arabie Saoudite ne va pas s'engager sur une piste comme celle-là. Donc ce plan n'a pas de sens. Je crois que prétendre avancer dans cette direction, c'est simplement imposer sur le terrain un rapport de force, et ça ne peut pas fonctionner. Il y aura forcément un moment ou un autre des réactions, violentes ou pas, j'en sais rien, mais c'est l'histoire de deux peuples, et la seule possibilité, je reviens à la question que vous m'avez pas posée, c'était sur les deux États, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que une solution à deux États. Elle est juridiquement consacrée par le droit international, elle est politiquement nécessaire, parce qu'il n'y en a pas d'autre. L'État unique, ça revient à un État d'apartheid, de discrimination systématique. Et je crois que malgré la colonisation aujourd'hui, je pense que ça reste pratiquement possible, car certaines colonies peuvent être soit annexées, soit bref, c'est jouable. Donc voilà, nous sommes dans cette impasse, et voilà, parce que sinon je vais avoir trop de temps.
Nous aurons l'occasion d'en reparler. Géopolitique est malheureusement écourtée pour cause d'actualité sportive, c'est donc la fin de cette édition. Merci Alain Diekhoff, directeur de recherche au CNRS, auteur de plusieurs ouvrages, dont Le conflit israélo-palestinien, paru chez Armand Collin, et Jean-Paul Chagnolot, professeur émérite des universités, président de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, et auteur de, pour le dernier ouvrage, Israël face à Israël, promesses et dérives d'une utopie, aux éditions Autrement. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte.